Oui, ce matin nous t'adorons. Ce matin nous t'acclamons, toi le roi, le roi qui règne. Ton règne est éternel. Ton règne n'a point de fin. Les hommes passent, le royaume des hommes passe, mais ton royaume demeure éternellement, parce que tu es Dieu, parce que c'est toi le créateur des temps, parce que c'est toi le maître de l'univers. Ce matin nous venons te louer, ce matin nous venons t'adorer, toi qui règnes dans nos vies Seigneur, et ta présence, ô Dieu, annule les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Voilà pourquoi nous te célébrons Jésus, le roi qui règne, le roi qui vit pour l'éternité. Sois élevé, sois béni, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu des miracles. Alléluia. Merci Jésus, toi qui renouvelles tes bontés chaque matin. Et ces bontés, ô Dieu, ce matin tu nous renouvelles encore tes bontés, ô Dieu. Voilà pourquoi nous venons à toi pour te célébrer. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, le seul, l'unique, le véritable Dieu. Il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Et nous venons te louer. Toi, tu nous donnes ce souffle de vie. Combien précieux pour notre vie de tous les jours. Tu es bon. Tu es merveilleux. Reçois, ô Dieu, ce peu de mots, ces faibles mots qui expriment le plein de nos cœurs. Bénis ces instants, ô Dieu de gloire. Et glorifie ton nom ce matin. Par cette parole qui sera déclamée, ô Dieu de gloire, nous prions que tu prennes ta place. Et que tu nous aides, ô Dieu, à marcher avec toi et à nous attacher à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. J'aime bien ce qu'il est écrit. Heureux celui que le Seigneur admet dans ses parvis. Nous sommes heureux ce matin, nous qui prenons part à ce culte. Et nous disons merci à notre Père spirituel qui nous a donné l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Et permettez-moi aussi de féliciter notre maman pour ce diplôme d'honneur en dans le leadership. Et c'est ce qu'on lui a décerné la semaine à Lomé. Et nous félicitons évidemment aussi tous ceux qui sont là-bas, le pasteur Elie, qui a reçu son diplôme de master, le pasteur Guy aussi Bomboko, qui a reçu son diplôme de master. Il y a notre frère, papa Prunel, son diplôme de licence, et aussi papa Ben, le diplôme de licence. L'œuvre avance toujours. Et que Dieu nous aide à suivre le modèle de nos pères, afin de faire ce qui est juste. Le dimanche passé, Maman Cécile nous avait parlé d'un sujet très important, les inquiétudes. À cause des conséquences, des effets néfastes que les inquiétudes produisent dans nos vies, elle nous a rappelé que Dieu nous recommande de ne pas nous inquiéter. Et ce matin, nous voulons aller dans le même sens. Et j'aimerais nous inviter à lire, à ouvrir nos Bibles, à faire la lecture dans le livre de Nombres, chapitre 22, et puis nous lirons le chapitre aussi 23. Nombres, chapitre 22, nous commençons à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balaam, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. » Nous prenons le chapitre 23, nous allons lire à partir du verset à partir du verset 19. Ou même, excusez-moi, 18-16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, et de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Très-Haut, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un spectre s'élève sur Israël. Il perce le flanc de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître des Dômes, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain et fait périr ceux qui s'échappent de la ville. Balaam vit Amalek, il prononça oracle de l'Éternel. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens, excusez-moi, je suis dans 23. Chapitre 23. Verset 19, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déchiré, déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est le verset 23 qui nous intéresse ce matin. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Bien-aimé, ce matin, je m'étais encouragé et te dire, ne t'inquiète pas parce que l'enchantement ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La magie ne peut rien contre toi. L'occultisme ne peut rien contre toi. Permettez-moi de rappeler à quelqu'un qu'une vie sainte et purifiée attire la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est un gage qui nous préserve des intrigues de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. La lecture que nous venons de faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous rappelle qu'au-delà des apparences physiques, il y a des réalités spirituelles dans le monde où nous vivons. Certaines personnes en font de trop, ils spiritualisent tout. Et juste à la vue d'un animal, ils spiritualisent les gestes et le fait, mais d'autres encore nient des réalités spirituelles. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament, il est question aussi de ces réalités spirituelles. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas, 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais plutôt contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien aimé, les réalités spirituelles existent, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu d'affaires, que ce soit dans nos quartiers, dans nos familles, certaines personnes font recours à des pratiques occultes pour causer du tort à d'autres. Et c'est ainsi que dans ce contexte, nous voyons les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient en train de continuer leur bon nombre de chemins vers la terre promise. Ils arrivent près de Moab. Et là, quand ils arrivent près de Moab, nous voyons le roi de Moab qui s'élève, Balak. Il avait peur de ce peuple. Il était impuissant face à ce peuple d'Israël. Et puisqu'il était impuissant, au lieu de mobiliser son armée pour combattre Israël, mais il fait appel à certaines pratiques occultes pour arriver à dompter Israël. C'est ce que nous avons lu au chapitre 22. Il fait appel à Balaam. Il lui dit, maudis-moi ce peuple afin que j'arrive à le vaincre. Parce qu'il se sentait impuissant face à ce peuple. Bien aimé, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de milieux professionnels. Il y a des gens qui utilisent certaines pratiques pour faire du mal à d'autres. Il y a des gens qui utilisent certains gris-gris pour amener les autres à la soumission. Et c'est là qu'ils jettent les mauvais sorts. C'est là qu'ils envoûtent les autres pour que le malheur arrive à leurs semblables. Bien aimé, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est ainsi que on a appelé Balaam pour maudire ce peuple. Bien aimé, Balaam et Balak savaient bien et bien que les paroles qu'ils prononceraient allaient attirer des forces nuisibles contre Israël. Ces paroles seraient comme un envoûtement contre Israël. Et ceci nous rappelle le combat entre David et Goliath. Vous allez vous rendre compte, dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 43 jusqu'à 46, il est dit que David sortit pour combattre Goliath. Mais lorsque Goliath vit David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est maudit par ses dieux. Parce qu'il savait que je ne saurais, avant de combattre, il fait appel à des forces nuisibles pour combattre David. Mais qu'est-ce que David répondra? Tu viens vers moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Quoi pour dire, au-delà du physique, il y avait une autre réalité qui s'est passée. On voyait les gens qui se battaient physiquement, mais spirituellement, il y avait des choses qui s'est passées. Voilà pourquoi lorsque Moïse est allé pour combattre Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit à Josué, choisis des gens, va combattre, mais moi je fais quoi? Moi je monte. Et qu'est-ce qu'il faisait Moïse? Là où il était monté, il a levé la main. Parce qu'au-delà du physique, au-delà des réalités que nous voyons, il y a des données spirituelles, des fois que nous ne maîtrisons même pas, des fois que nous ne voyons même pas. Parce que lorsque Balak avait conçu ses projets contre Israël, Israël n'était pas informé. Israël ne savait pas ce qui s'est comploté contre lui. Derrière lui, il y avait des gens qui faisaient des choses. Bien, mais dans le Seigneur, derrière toi, il y a peut-être des gens qui font des choses. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es calme, mais il y a des gens qui prononcent des paroles contre toi. Il y a des gens qui disent des choses contre toi, pendant que toi, tu n'es pas au courant de cela. Et bien aimé dans le Seigneur, ce genre de choses, souvent si on n'y prend pas garde, ont une certaine influence sur les autres. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui connaissent certaines difficultés, parce qu'il y a des gens qui ont dit, qui ont fait des choses contre eux. Il y a des gens, nous allons voir dans certaines familles, les divorces arrivaient parce que quelqu'un dit, il ne faut pas qu'il y ait des mariages, il ne faut pas que ce couple demeure stable. Nous allons voir dans certains endroits, certaines personnes perdent leur emploi, certaines personnes être malades, certains enfants être envoûtés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, quelque part, jettent des mauvais sorts. Et c'était le cas avec Balaam et Balak. Balaam est sorti pour jeter des mauvais sorts contre Israël, parce qu'ils savaient qu'Israël était puissant. Il y a certaines personnes qui sont envoûtées, ces personnes ne comprennent plus pourquoi ils font telle chose. Ça influence leur caractère. Il y a des gens qui posent certains actes parce qu'ils ont été envoûtés quelque part. Et plus tard, ces personnes regrettent. Vous allez voir quelqu'un qui dit, je ne sais même pas pourquoi je posais tel acte. Je ne sais même pas pourquoi j'ai agi de telle manière. Et quand vous lisez Galates chapitre 3 verset 10, l'apôtre Paul disait aux Galates, « Oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez point à la vérité? Vous qui avez Christ, vous à qui Christ a été auparavant porté devant les yeux et crucifié entre vous. » Galates avait choisi de suivre d'autres pratiques. Et Paul dit, « Oh Galates, qui vous a ensorcelé ?» Quoi pour dire que quelqu'un qui est ensorcelé posera certains actes qui échappent à son contrôle. Il va faire certaines choses qui le dépassent. Vous allez voir quelqu'un qui a envie de se suicider. Quelqu'un qui a envie, et des fois quand il a l'argent, il fait des choses pour lesquelles il va se rendre compte après qu'il ait tout perdu. Quelqu'un qui a un travail, il va poser des actes. Après qu'il ait perdu le travail, il va se dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et ce sont des choses qui viennent dans le monde spirituel. Et il y a des réalités spirituelles dans notre monde. Bien-aimés, et pour Israël, c'était ça la stratégie qu'avait planifié Balak pour dominer Israël. Mais malheureusement pour Balak, parce qu'Israël avait un Dieu. Et lorsque Balaam sortait pour dire les mauvaises choses, au lieu de maudire, il bénissait. Au lieu de dire les mauvaises choses, qu'est-ce qui arrivait? C'était des paroles, des bénédictions qui sortaient de leur bouche. Raison pour laquelle au chapitre 23, le verset 23, Balaam lui-même dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Vous savez, il y a des personnes, même si on fait des choses contre eux, ça ne marchera pas. Parce que là, on fait recours à des forces nuisibles. Mais pourtant, il y a des personnes, même si on fait recours à ces choses, ça ne marchera pas. Pourquoi l'enchantement ne peut rien contre Israël? Si vous lisez bien ce passage, vous analysez ce passage, je peux trouver qu'il peut relever quelques raisons pour lesquelles l'envoûtement ou l'enchantement ne pouvait rien contre Israël. Premièrement, il est dit au verset 20 de chapitre 23. Chapitre 23, il est dit au verset 20, il n'aperçoit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni, je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu, l'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi. Première des choses, Israël appartenait à l'Éternel. L'Éternel était son roi. Tu ne peux pas maudire le peuple de Dieu. Tu ne peux pas maudire celui en qui Dieu appartient. Israël appartenait à l'Éternel. Israël n'était pas n'importe quel peuple. Il n'était pas comme tout le monde. Mais c'est un peuple qui appartenait à Dieu. Mais lorsque nous appartenons à Dieu, peu importe ce que les gens peuvent faire, cela ne marchera pas parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Raison pour laquelle Dieu disait à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Et le diable dit, c'est parce que tu l'as protégé. Dieu lui dit, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Parce qu'ils sont sous ma protection. Et je me dis à quelqu'un ce matin, tu es sous la protection divine. En cette fin d'année, l'enchantement ne peut rien contre toi parce que tu appartiens à Dieu. Pourquoi il appartenait à Dieu? Parce que Jacob, quand vous lisez Exode, plutôt Genèse, chapitre 22 ou 30, vous allez voir que Jacob avait rencontré Dieu. Jacob est cette personne qui avait rencontré Dieu, qui demeurait dans la présence de Dieu. Et il appartenait à Dieu. Et la deuxième raison, c'est le témoignage de Dieu pour Jacob. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 21? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Tu ne peux pas maudire quelqu'un qui marche avec Dieu. Et Dieu rend un témoignage de Jacob. Il dit, je ne vois rien de mal en Jacob. Quoi pour dire, quand il y a un mal, quelqu'un peut t'avoir. Mais Dieu ne voit rien en Jacob. Et quand Dieu dit qu'il ne voit rien, il ne voit pas comme nous les hommes. Les hommes voient les apparences. Nous, nous voyons ce que nous voyons, les apparences, mais Dieu voit la profondeur du cœur. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît même l'intention de l'homme. Voilà pourquoi lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu disait à Samuel que l'Éternel ne voit pas comme les hommes. L'Éternel ne juge pas comme les hommes. Les hommes voient seulement l'apparence. Quelqu'un qui est bien présenté, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui lève la main, quelqu'un à qui on peut rendre témoignage. Mais Dieu voit au-delà des apparences parce qu'il voit tout. Et lorsque vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 13, il est dit, rien n'est caché devant Dieu. Bien, mais il est important pour nous d'avoir les témoignages de Dieu. Oui, les hommes peuvent parler de nous, mais c'est mieux que Dieu parle à notre sujet. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu voit les choses que nous faisons en secret. Dieu voit les choses que les hommes ne peuvent voir. Nous pouvons nous cacher des hommes, mais on ne peut se cacher de Dieu. Parce que la nuit n'existe pas devant de Dieu. Le noir n'existe pas devant de Dieu. Il voit toutes choses. Souvent, nous avons tendance à nous cacher. Nous avons tendance à dire, ça, je le fais en secret pour que les gens ne voient pas. Mais Dieu voit tout. Et c'est ce que Hébreux nous dit, que rien n'est caché devant l'Éternel. Dans Job chapitre 34, verset 22, il a dit, il n'y a ni ténèbres au devant de l'Éternel. Il n'y a ni ténèbres où puisse se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu voit toutes choses et Dieu rend un témoignage. Tu ne peux pas maudire Jacob parce que Dieu rend témoignage de ses peuples. Il n'y a pas des éléments qui peuvent faire que tu maudisses ce peuple. Dieu connaît ce peuple. Je disais tantôt que Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Et Dieu voit même l'intention qu'on peut avoir. Voilà pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 5, verset 28, Jésus disait que celui qui regarde une femme et qui a l'intention de sortir avec a commis. Quoi pour dire que Dieu voit non seulement les actes, mais Dieu voit aussi même l'intention qu'on a. Il y a des gens aujourd'hui qui ne posent pas des actes, mais qui ont de mauvaises intentions. Dans leur cœur intérieur, ils sont mal intentionnés. Il veut être avec une personne, il parle gentiment, mais dans le cœur, il est mal intentionné. Et Dieu voit l'intention. Bien, mes raisons pour lesquelles on voyait l'intention, on voit les actes de Jacob. Dieu a dit, je ne vois rien d'injustice, je ne vois rien d'iniquité, je ne vois pas de mal en Jacob. Tu ne peux pas, l'enchantement ne peut pas le toucher, parce que Dieu ne voit rien qui puisse toucher Jacob. Alléluia. Quoi pour dire, si on a des choses qui nous avons faites, si on a des choses qui nous reprochent, qu'est-ce qui va arriver? Il y a certaines choses qui peuvent nous toucher. Mais Dieu a dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Je ne vois rien de mal en Jacob. Troisièmement, Dieu dit, l'Éternel est avec lui. La présence de l'Éternel empêche les malédictions. La présence de l'Éternel, oui, fait que peu importe ce qu'on peut faire en coulisses contre toi, ça ne marchera pas parce que sa présence nous protège. La présence de l'Éternel, bien-aimé à nos côtés, est remarquable. Oui, Dieu était avec Jacob. Raison pour laquelle tout le peuple avait peur d'Israël à cause de la présence de Dieu. Quand Dieu est avec quelqu'un, cela se voit, cela se remarque. Dans l'histoire de Joseph avec Potiphar, il est dit que Potiphar a remarqué que tout ce que Joseph faisait réussissait. Pourquoi? Il est dit là-bas, parce que l'Éternel était avec lui. Mais le plus important pour nous, de chercher, c'est que l'Éternel soit avec nous. Partout où nous sommes, dans nos lieux de service, dans nos différentes activités, que l'Éternel marche avec nous. Quand l'Éternel est avec toi, cela te suffit. Et il est dit là-bas, l'enchantement ne pourra rien parce que l'Éternel est avec lui. Paul a dit, ma capacité vient de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'Éternel était avec Jacob. Raison pour laquelle, peu importe ce qu'on pouvait faire, c'était la guerre de Dieu. Oui, le petit Dieu qui voulait dominer les grands dieux. Et on peut dominer Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'on amena l'arche de l'Éternel par le Philistin dans la maison de Dagon. On vient le jour suivant, on trouve Dagon par terre. Pourquoi? Dieu ne peut pas être comparé avec les petits dieux de ce monde. Dieu est au-dessus de toutes les choses. Et lorsque tu as Dieu, bien mais sa présence te suffit. Raison pour laquelle tous les jours dans ta vie, recherche la présence de Dieu. Recherche que Dieu soit avec toi. Désire la présence du Seigneur dans ta vie. Et tu verras que tout ce que l'ennemi peut faire contre toi, tout ce que l'ennemi peut faire en coulisses contre toi, cela ne marchera pas parce que l'Éternel sera ta force. Autre élément, il est dit là-bas, Balaam dit là-bas que voici, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Quand Dieu bénit, on est béni. Peu importe ce que les gens diront, qu'on le veuille ou pas, Dieu ne va pas changer ce qu'il a déclaré. Dieu a béni Jacob. Qui es-tu pour les maudits? Personne ne peut ravir ce que Dieu a donné. Qui peut prendre celui qui est entre le main du Seigneur? Le poste que tu as, c'est Dieu qui a donné. Oui, ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et puisque Dieu a donné, même si les gens font des choses contre toi, même si à cause de la jalousie, même si à cause je ne sais de quoi, les gens se liguent contre toi, ils ne te vaincront jamais parce que Dieu a déjà béni. Et la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu a donné. Raison pour laquelle, ma soeur, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que ce que tu as, ça vient de Dieu. Ce que tu détiens vient de Dieu. Ton mariage vient de Dieu. Tout ce que tu es, ça vient de Dieu. Puisqu'il a donné, il prend soin de toi. Que les gens ne montent, tu descendes. L'Éternel est avec toi. Et c'est ce qu'il rappelle. Il dit, je ne révoquerai pas. Toi, tu n'as pas un pouvoir pour changer, obscurcir le dessein de l'Éternel. Non, il y a des choses qui sont les prérogatives divines. C'est seulement de Dieu. Personne ne peut les changer. Voilà pourquoi lorsque Dieu disait à Satan, il dit, que tu touches à ses biens, mais pas à sa vie, parce qu'il y a des prérogatives qui sont divines, que Dieu ne peut pas permettre que l'ennemi touche. Et lorsque Jésus devait faire face à sa mort, il a dit, je donne ma vie et je la récupère. C'est dans ses prérogatives. Il ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Ça lui appartient. C'est comme la bénédiction. La véritable bénédiction vient de Dieu. C'est dans les prérogatives de Dieu. Et lorsqu'il les donne, personne ne peut arracher ce qu'il a donné. Et lorsque Jésus était face à Pilate, Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je me dis à quelqu'un, les hommes n'ont pas de pouvoir sur toi. Je me dis à quelqu'un, les forces de ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Les forces de ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ta famille, sur ton travail. Ils n'ont pas ce pouvoir. Jésus lui dit, tu n'auras aucun pouvoir qu'il t'ait donné. Quoi pour lui? Tout dépend de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est lui qui décide. Raison pour laquelle, puisque c'est Dieu qui décide, bien aimé dans le Seigneur, sois comme Jacob. Aie le témoignage de Dieu. Attache-toi à Dieu. Reste accroché à ce Dieu. Parce que c'est lui qui bénit. Et un autre élément, cinquième élément, c'est que Dieu est la force de Jacob. Et c'est ce qui est dit au verset 22. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Le buffle est très fort. Le buffle pèse. Et Dieu est notre force. Et Paul a dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Notre force ne vient pas de nous-mêmes. Mais c'est vrai, tu as fait des études. Gloire à Dieu pour cela. Mais trouve ta force à sur Dieu. Parce que l'ennemi n'a que faire de niveau d'études. L'ennemi n'a que faire de tes principes que tu as établis. Mais lorsque tu puisses ta force en l'Éternel, l'ennemi ne pourra rien contre toi. Raison pour laquelle ici il dit, je suis sa force. Les gens étaient étonnés de la force d'Israël. Mais d'où venait la force d'Israël? La force d'Israël venait de l'Éternel. La force d'Israël venait de Dieu. Et Paul dit, ma capacité vient d'en haut. Les gens étaient étonnés de voir Paul faire des choses. Mais d'où venait la force de Paul? Ça venait du ciel. Bien, mais que ta force vient du ciel. Et pour que tu sois fort, pour que Dieu te rende fort, il faut faire sa joie. La joie de l'Éternel sera ma force. Lorsque je fais la joie de l'Éternel, lui me donnera sa force. Nous faisons la joie de l'Éternel lorsque nous avons un bon témoignage auprès de lui. Lorsque nous marchons selon sa volonté, lorsque nous marchons selon sa pensée, lui fera notre force. Et lorsque tu seras fort, peu importe ce que les gens pourront faire en coulisses contre toi, ça ne marchera pas. Tu dormiras dans la paix parce que l'Éternel, lui seul, prendra soin de toi. Le vendredi passé, vous avez dit que l'Éternel, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Et lui-même, il dit, des flèches tomberont à gauche, des flèches tomberont à droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Lui est notre force. On ne peut pas combattre celui qui a Dieu. Oui, vous allez combattre celui qui a Dieu, mais vous ne le vaincrez jamais. Voilà pourquoi il a dit encore qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Oui, la guerre est possible. C'est possible, le problème n'est pas la guerre, c'est la fin de la guerre. Le problème n'est pas le début de la guerre, c'est voir mes combats. Le problème c'est l'issue du combat. Comment ça va finir? Qui va gagner? Mais nous savons une chose, que Jésus à la croix dit tout est accompli. Il a tout accompli à la croix et nous a rendus vainqueurs par son sang. Raison pour laquelle, bien aimé, en cette fin d'année, je me dis à quelqu'un, l'enchantement ne peut rien contre toi. Oui, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Oui, l'envoûtement ne peut rien contre toi. Contre ta femme, ça ne pourra rien. À cause du fait que l'Éternel sera ta force. Et enfin encore, pourquoi l'enchantement ne peut rien contre toi? Parce que Jacob était un homme de prière. Jacob, Israël, était un homme qui était attaché à Dieu. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Il passait du temps en train de crier à Dieu. Mais l'ennemi viendra pour te faire du mal. Tu ne le connais pas. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Des fois, c'est leur dont on dit le nom. Peut-être que ce n'est pas eux. Des fois, ça peut être la personne en qui on a plus confiance. Mais, peu importe, sois un homme de prière. Et Israël était un homme de prière. Quand vous lisez la vie de Jacob, vous allez voir que c'est un homme qui luttait avec Dieu. Il a lutté avec Dieu dans la prière. Il a lutté avec les hommes. Il a été vainqueur. Nous sommes appelés à être des hommes de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, telle a été ma pensée ce matin. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce matin, l'enchantement ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Et pourquoi l'enchantement ne peut rien contre toi? Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu vis la vie de Dieu. Parce que tu as un témoignage favorable auprès de ton Créateur. Parce que tu ne marches pas dans l'iniquité. Parce que tu ne marches pas dans l'injustice. Parce qu'il n'y a pas de cause qui peut provoquer qu'il y ait des enchantements contre toi. Il n'y a pas de cause, tu peux le justifier. L'enchantement ne pourra rien contre toi. Voilà pourquoi j'ai dit au début qu'une vie sainte, pure et juste nous préserve des intrigues de l'ennemi. Celui qui vit avec Dieu, c'est comme ce conquérant qui est dans une bouteille que la poule ne peut toucher. Pourquoi? Elle est sous la protection divine. Et notre protection vient lorsque nous sommes attachés à Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu. Lorsque nous croyons à ce Dieu. Et c'est comme ça que nous serons victorieux dans notre vie de tous les jours. Amen. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier le Seigneur.
Merci Seigneur notre Dieu. Nous allons nous incliner en prière. Une vie pure et juste nous préserve des attaques, nous préserve des assauts de l'ennemi, nous préserve de tout ce que l'ennemi peut programmer contre nous. Il pourra se lever contre nous, mais il ne pourra pas avoir le dessus sur nous. Est-ce que nous pouvons d'abord bénir le Seigneur notre Dieu pour sa parole? Parce qu'en lui, nous avons la garantie de sécurité. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, bénir le Seigneur notre Dieu? Merci Seigneur notre Dieu. Quel que soit l'armement que l'ennemi peut détenir contre nous, quelles que soient les décisions qu'il peut prendre, les décisions peuvent être prises de manière unanime dans le monde des ténèbres contre nous. Seigneur, le problème n'est pas les décisions que l'ennemi prend. Non. Le problème, c'est que l'ennemi ne peut jamais avoir la mainmise sur nous. Car nous t'appartenons. L'enchantement, la sorcellerie, l'occultisme, le fétichisme et toutes les astuces de l'ennemi ne peuvent aucunement avoir un impact contre nous. Car notre vie est cachée en Dieu avec Jésus. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, nous sommes totalement en sécurité. Nous te louons, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Merci, puissant de Jacob. Merci, Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Et il s'est fait que tu es en train de vivre des choses tout à fait anormal. Il y a certaines choses que tu fais qui sortent de l'ordinaire, des choses qui ne sont pas à ton contrôle, des choses qui échappent à ton contrôle, parce que il y a quelqu'un qui a parlé, parce que il y a quelqu'un qui a fait des choses contre toi. Tu es comme télécommandé. Tu n'as pas le contrôle sur toi-même. Si tu es là, tu peux lever ta main. Nous allons prier pour toi. Dieu est tout puissant. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tant que Dieu était avec Israël, tant que Israël jouissait d'un bon témoignage de l'Éternel, Israël pouvait être tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché dans tel ou tel autre aspect de cette belle parole que nous avons? Écoutez ce matin, il lève sa main. Nous allons prier avec lui et pour lui. Merci. Merci, vous qui levez vos mains. Merci. Merci. Bien-aimé, peut-être que tu connais tes ennemis. Peut-être même que tu ne les connais pas. Ils s'élèvent contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi ils s'élèvent contre toi. On nous a dit que c'est entre autres parce que en Israël, Dieu ne voyait pas d'iniquité. Voilà pourquoi l'enchantement ne pouvait absolument rien contre lui. Peut-être qu'en toi tu réalises qu'il y a des choses qui offensent l'Éternel, l'ennemi peut t'atteindre. Ce matin, tu peux implorer la grâce de Dieu. Ce matin, tu peux demander à l'Éternel le pardon. Vous qui avez levé vos mains, s'il vous plaît, faites un effort, mettez-vous debout. Nous avons nos têtes courbées en prière, il n'y a pas de spectacle. Chacun regardant à son cœur. Il y a quelque chose que Dieu voit en toi, qui l'irrite, qui a provoqué sa colère. Ça peut être un canal, le moyen par lequel l'ennemi peut t'atteindre. Ce matin, tu peux demander pardon à Dieu. Il est l'Éternel qui ne se lasse point de pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de discuter avec lui-même? Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci, vous qui vous levez. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Merci, vous qui vous levez. Quelqu'un d'autre? Nous appelons Maman Régine. Elle va prier pour ses bien-aimés. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur.
Éternel, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu merveilleux qui nous a envoyé ta parole ce matin. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole est guérie. Oui, Seigneur, laisse que cette parole que tu nous as envoyée ce matin puisse guérir, Éternel, le cœur de tout un chacun, le cœur de toutes ces personnes debout, Éternel, parce que cette parole a trouvé place dans leur cœur. Toi qui vois même les intentions du cœur, toi qui vois tout ce que nous faisons, Père Éternel, ce matin, ils sont là devant toi. Ils veulent, Éternel, que toi, le Dieu qui bénit, que tu puisses, Éternel, le bénir. Toi, le Dieu qui connaît toutes choses, que tu puisses, Éternel, désarmer, le purifier de ton sang, afin que Dieu de gloire qui soit purifié complètement et totalement, afin que l'ennemi ne puisse plus les toucher. Parce que, oh Dieu de gloire, ce matin, ils se sont levés pour dire, nous t'appartenons. Merci parce qu'ils t'appartiennent. Aide-le à marcher à nouveauté des vies. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ.